Merci tout le monde d'être là. J'apprécie beaucoup ça. On va commencer le meeting, si vous voulez bien, qu'un moment de silence, pour avoir une pensée spéciale pour les gens qui devraient être ici et qui peuvent pas. Avoir une pensée spéciale aussi pour les gens qui devraient être ici, mais qui veulent pas. Un moment de silence pour tous ces gens-là. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être là. J'ai besoin de vous autres. Moi, je l'ai essayé tout seul, puis ça ne marche pas avec vous autres. Mais pour les derniers 30 ans, ça fonctionne. Fait que je vous remercie d'être là. On va faire une petite révision. On a deux meetings, c'est notre troisième meeting. On a parlé un peu de l'avant-début, avant qu'on commence, ce qui s'est passé. Mais il y avait un type de l'Autriche qui s'appelait Dr. Carl Jung, qui a pris en main un alcoolique par le nom de Roland Hazard, qui ça se passait en Autriche. Puis à peu près dans le même temps à New York, il y avait un Dr. William Silkworth qui prenait en main Bill Wilson, puis les deux ont descendu d'une échelle, puis ils étaient tous les deux amis avec Abby Thatcher, puis Abby Thatcher, c'était tous des ivrognes, tous des alcooliques, et puis Roland Hazard qui est devenu sobre, puis il est allé aider Abby Thatcher, puis Abby Thatcher est allé aider à Bill, puis c'est là que la connexion s'est faite, que le début de AA, Bill il avait demandé au docteur Silkworth la permission d'aller chez l'aile psychiatrique pour parler aux alcooliques qu'il y avait là, parce qu'il y a des rétablir. Il y avait un peu de misère, puis le docteur Silkworth qui a dit à Bill, ben, dit, arrête de lui parler de ton réveil spirituel, commence par lui parler de la maladie, puis après ça, tu peux lui parler de la solution, puis peut-être ça va marcher mieux. Et entre fait, Bill, il avait affaire à Akron, il est allé à Akron, c'est là qu'il a rencontré le docteur Bob, puis il a expliqué au docteur Bob la nature de sa maladie à lui, pas celle de docteur Bob, puis après ça, il a expliqué la solution. Puis le docteur Bob a dit, oui, ça fait du sens. Puis toutes les deux ont commencé le mouvement qu'on connaît aujourd'hui des alcooliques anonymes. C'est de même que ça a commencé. Puis après ça, il y a plusieurs personnes qui les ont joints. Ils ont formé un groupe à New York, puis un à Akron, de quelques membres. Puis au bout de 3 ans, ils se sont aperçus que de bouche à bouche, se perdait un peu, se distorsionnait. Puis là, ils ont décidé, avec l'agrément de tous les membres qui existaient dans le temps, peut-être une trentaine quand ça a commencé, là, à écrire un livre. Mais écrire un livre pour dire exactement comment est-ce qu'ils ont fait pour se rétablir, pour que ça se concrétise puis que ça se perde pas. Parce que c'est en train de se mélanger déjà avec une trentaine de personnes. Ils ont dit, mais qu'on ait des milliers de personnes, puis même que ça fasse des centaines d'années, ça va tout être perdu, ce qu'on a trouvé là. Fait qu'ils ont décidé de mettre ça dans un livre. Ils ont écrit un livre, ça a pris 1 an à écrire un livre. Chaque chapitre était édité par tout le monde, tous les membres. Ils ont qualifié ça de 100 personnes, mais à la fin, peut-être qu'il y avait 100 personnes. Au début, il n'y avait pas 100 personnes. Mais ils ont tous mis le mot là-dedans pour en venir à une entente cordiale, une entente complète. Que là, ils ont écrit le gros livre. Ils ont fait le livre était à peu près à 800 pages dans le temps. Ils ont donné ça un professeur d'université pour qu'il corrige ça. Puis, ça a parti de 800 pages, ça a tombé à moins de 400 pages après que le docteur, il s'appelait Tom Uzel. Après ça, ils ont fait 400 copies de ça, puis ils ont été donné une copie à les principaux participants dans les différentes religions, des différents groupes qui allaient pour avoir de l'intérêt là-dedans, pour avoir leurs opinions, pour voir si ça se vendrait bien. Et puis, ils ont décidé, après que ça a été édité de cette façon-là, de le faire paraître. Ils ont fait 5 000 copies. Il n'y avait pas d'argent, mais les membres, il y en a qui ont décidé que vendre des actions à 20 piastres l'action. L'action n'avait pas de valeur, mais le monde s'est plus pour coopérer pour avoir une maison d'édition, parce qu'il n'y avait pas de maison d'édition qui voulait le faire gratuite. Ils ont fini par trouver une maison d'édition qui a été avec un dépôt de 500 piastres. Ils ont imprimé 5 000 livres. Et puis ces livres-là, ils ont mis à vendre à 3,5 $ chaque, qui était très dispendieux pour la période de temps où ça a paru. Puis de là, ça a commencé, puis ils ont eu beaucoup d'aide extérieure pour faire la vente de ce livre-là. Éventuellement, ils ont ouvert des groupes, puis comme dans n'importe quoi, les groupes se sont un peu dispersés, puis se sont un peu distancés du programme des alcooliques anonymes. Parce qu'ils nous disent au début, la fraternité, puis le gros livre, ça avait le même message. La fraternité, c'était les meetings. Ils donnaient le même message. Le message, c'était d'identifier, puis comprendre le problème, qui est la maladie physique, puis la maladie mentale. Après ça, de chercher la solution, qui était Dieu de notre compréhension, Dieu de notre façon de le voir. Puis après ça, la troisième affaire, c'était de mettre en pratique ce programme d'action-là, ces 12 étapes-là. Et puis tranquillement, la fraternité s'est éloignée de ça. La fraternité, ont commencé à accepter à peu près n'importe qui allait au meeting puis qui disent à peu près n'importe quoi. Et puis, il était en train de se perdre. Puis après que Bill est mort, il y a deux membres qui ont décidé de faire des études de gros livres. C'était le Charles P. puis Joe McHugh qui ont décidé, ils se sont rencontrés dans une convention et puis ils se sont aperçus qu'il y avait tous les deux un intérêt pour le gros livre. Ils se sont mis à discuter de ça en 73. Puis à partir de 77, ils se sont mis à donner des études de gros livres un peu partout. Ils ont été reconnus. Puis ils ont fait des études de gros livres à pervers dans tout le monde entier du côté anglais. Ces gens-là sont décédés tous les deux aussi. Du côté anglais, il y a beaucoup d'études de gros livres faites par différentes personnes avec différents attraits, là. Et puis, moi, quand j'ai revenu au Québec, moi, j'ai rentré là-haut en Alberta du côté anglais. Je faisais des études de gros livres ou j'attendais à des études de gros livres régulièrement par différentes personnes qui avaient compris le message et qui le transmettaient aussi bien que possible. Puis quand j'arrivais au Québec, dans le début des années 2000, ben, je trouvais pas de place, il y avait des études de gros livres, je m'informais. Puis tout le monde, personne n'était capable de dire, il dit, on sait pas de quoi tu parles, nous parle, pourquoi tu en commences pas un. Fait que finalement, moi puis Joanne, ma compagne du temps, on a commencé une étude de gros livres en français. Puis aujourd'hui, c'est connu pas mal partout au Québec. Il y a des études de gros livres qui se donnent un peu partout pour essayer de conserver ce qui est écrit dans ce livre-là, qu'on ne perde pas la notion. Parce qu'avec les groupes seulement, ça ne marche pas trop bien. Le rétablissement fonctionne pas trop bien. En anglais, ils nous disent que le rétablissement se fait avec les étapes qu'on fait, pas avec les meetings qu'on fait. Puis l'opinion, oui, du côté anglais, c'est que Bill et Bob ont écrit le gros livre. Mais Joe et Charlie nous l'ont expliqué. Puis on continue à donner ces explications-là. La semaine passée, ça, c'était des avant-propos. On a eu l'opinion du médecin. Je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il nous a dit, le docteur, le médecin, à page 26 jusqu'à la page 34, en chiffre romain dans le gros livre. C'était un des plus grands psychiatres des États-Unis. Il a expliqué pourquoi il avait accepté de donner son opinion dans ce livre qui a été écrit par des alcooliques. C'est des alcooliques qui n'ont pas une qualification trop haute. Et puis, ce docteur-là, un des meilleurs psychiatres aux États-Unis, a voulu écrire un chapitre là-dedans pour peut-être donner un peu plus de valeur ou un peu plus de consistance à ce livre-là qui avait été écrit. Puis, le docteur, il nous dit que c'est pas parce que ça allait mal dans la vie ou que ça allait bien dans la vie qu'on buvait. La raison pourquoi qu'on buvait de même, c'est parce qu'on est allergique à l'alcool. Aussitôt qu'on touche une goutte d'alcool, on développe un goût immodéré de boire. Il appelle ça une allergie. Et puis, cette allergie-là, maintenant que, surtout que je bois, ça se continue. Puis, quand je bois pas, ma tête, elle me dit que je peux aller boire, ça fera pas ce que ça a fait la dernière fois. Dans le gros livre, à page 26, il nous dit, si des centaines d'expériences ont prouvé que ça marchait pas, pourquoi qu'on retourne encore boire? Bien, la raison, c'est parce qu'on a une obsession mentale qui fait qu'on peut pas s'empêcher de boire. L'obsession a grandi tellement qu'on vient tant qu'on lâche prise puis on va boire. Puis aussitôt qu'on boit, mais l'allergie kick in, puis on vire une brosse encore une fois. Le docteur nous dit, à moins qu'une personne peut vivre l'expérience d'un changement psychique total, il peut pas se rétablir. Mais une fois que ce changement-là est parvenu par la pratique des 12 étapes, on peut surmonter notre besoin d'alcool. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut être joyeux, heureux et libre sans consommer. Le médecin nous dit qu'il y a le sentiment que quelque chose au-delà de la force humaine est nécessaire pour produire ce changement psychique essentiel-là. Il dit qu'un médecin, s'il est honnête avec lui-même, il va reconnaître sa propre impuissance. Le docteur savait ce que ça prenait, mais il n'avait pas la capacité, il n'était pas capable de le donner. Puis c'est Bill, avec son chum Abby, qui ont réussi, avec le mode de vie qu'ils ont implémenté, bien qu'aujourd'hui, on peut être joyeux, heureux et libre sans consommer. Aujourd'hui, bon, on va commencer avec l'histoire de Bill, au chapitre 1, à page 1, du chapitre 1, qui devrait être au début, la première fois qu'ils ont imprimé le gros livre, le chapitre 1, c'était l'opinion du médecin. Puis ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans des chiffres romains au lieu des chiffres arabes, l'opinion du médecin, parce que c'était pas écrit par un alcoolique. Tandis que tous les autres chapitres sont écrits par un alcoolique. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est Bill qui les écrivait, puis envoyait des copies à Dr. Bob puis aux gens de Cleveland. Il modifiait ça, puis il réécrivait ça. Ça a pris un an à écrire ces 7 chapitres-là. Bill, lui, est né à East Dorset, dans le Vermont, le 28 novembre 1895. Puis il est décédé à Miami le 24 janvier 1971, qui était aussi sa date d'anniversaire de mariage, son 53e anniversaire de mariage. Bill, on va le dire tout à l'heure, mais il ne parle pas de tout en détail, là, mais Bill, quand il a eu autour de 11 ans, son père s'est séparé de sa mère. Son père est allé travailler au Canada, puis sa mère est restée aux États-Unis. Et puis, Bill, il a été élevé par le père de sa mère, son grand-père maternel. On va commencer avec la page 1 de l'histoire de Bill. La fièvre de la guerre était grande dans la petite ville de Nouvelle-Angleterre, où, jeune officier émoulu de Plattsburgh, nous avions cantonné. Bill est allé suivre un cours d'officier dans Nouvelle-Angleterre à Plattsburgh pour devenir un officier pour la Première Guerre mondiale. Et puis, comme il dit, comme nous étions flattés lorsque les notables nous ouvraient la porte de leur maison, ils nous donnaient le sentiment d'être des héros. Bill était vu dans le petit village de East Dorset. Le monde disait, hey, Bill, viens ici. Puis il donnait un petit verre de boisson, puis Bill, il prenait ça, puis il était fier que le monde l'appréciait, puis le monde le voyait en costume d'armée, et il était heureux de ça. Il nous dit, tout chantait l'amour, le triomphe, la guerre, des moments sublimes ponctués d'intervalles des plus joyeux. Enfin, je participais à la vie. Et au milieu de l'allégresse, j'ai découvert l'alcool pour la première fois. J'avais oublié les sévères mises en garde et les préjugés de ma famille au sujet de l'alcool. Son grand-père maternel lui a dit, Bill, prends jamais de boisson parce que dans ta famille, sur les deux bords de ta famille, il y a des alcooliques là-dedans, ça tourne pas bien les affaires. Fait que, touche jamais à ça, l'alcool, tu vas être meilleur pour ça. Là, Bill dit qu'il avait oublié ça, ces mises en garde-là déjà. Il avait 17, il avait 21 ans, je pense qu'il était allé à la guerre pour la première fois, là. Le moment venu, nous nous sommes embarqués pour là-bas, Outre-mer. Comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis de nouveau tourné vers l'alcool. Bill, il est arrivé en Angleterre, puis de l'Angleterre, il les a envoyés en France. Quand il est arrivé en France, il y avait beaucoup de vin, il a continué à boire du vin, là. Il nous dit, Bill, j'ai débarqué en Angleterre, j'ai visité la cathédrale de Winchester. Très ému, je suis allé me promener. Mon attention fut attirée par un épitaphe gravé sur une vieille pierre tombale. Ça, c'était la pierre tombale de Thomas Thatcher. C'était écrit là-dessus, si j'ai un grenadier du Hampshire, un grenadier, c'est un officier, qui passa de vie à trépas, qui est mort parce qu'il buvait trop de bière. On n'oublie pas un bon soldat qui meurt par le mousquet ou par le pichet. Bill avait lu ça, que ce gars-là était mort d'alcoolisme, mais il n'a pas vu la mise en garde qu'il y avait encore là. Puis encore une fois, quand on lit l'histoire de Bill, on va essayer de trouver les ressemblances qu'on a avec lui, pas les différences, parce que moi-même, quand j'ai l'histoire de Bill, il est allé beaucoup plus loin que moi, puis il est beaucoup plus loin que beaucoup de monde. Mais l'idée de tout ça, c'est aller voir les points qu'on a en commun. C'est pour ça que c'est bien important, parce qu'on a beaucoup de points en commun, même s'il y en a qui sont pas là. Puis Bill, il dit, c'était là un sinistre avertissement que j'ai pas su prendre au sérieux. D'aller voir cet épitaphe-là, dire que le gars, il est mort de boisson. Bill, il a pas trouvé ça, il a pas pris ça au sérieux. Lorsque je suis enfin rentré au pays à 22 ans, j'étais déjà un vétéran des guerres à l'étranger. On peut voir que Bill il avait la tête enflée pas mal. Il se déclarait déjà un vétéran des guerres. Il est allé à peu près 6 mois à 9 mois à la guerre pour revenir une seule guerre qu'il a faite, puis il est revenu, puis il dit qu'il est vétéran des guerres à l'étranger. Je croyais à mes qualités de chef. Les hommes de mon bataillon ne m'avaient-ils pas donné un témoignage spécial d'appréciation? Mes aptitudes de meneur me hisseraient, je me plaisais à croire à la tête de vastes entreprises que je dirigeais avec la plus grande assurance. Mais il ne manquait pas de guts, Bill. Ça a pris un gars de même pour faire ce qu'il a fait aussi. On va raconter en détail un peu plus ce qui s'est passé. Bill nous dit, j'ai suivi un cours du soir en droit au Brooklyn Law School, je suis ce jour-là. J'ai décroché un emploi comme inspecteur dans une société de cautionnement. La course à la réussite était commencée. Enfin, commencer à travailler, gagner de l'argent, puis voyait qu'il pouvait aller bien plus loin que ça. J'allais prouver au monde entier que j'étais quelqu'un. Hein? C'est moi le grand Bill qui arrive, puis tout le monde va le savoir. Mon travail m'a amené à Wall Street, et peu à peu, je me suis intéressé au marché des valeurs. Beaucoup y perdaient de l'argent, mais d'autres faisaient une fortune. Pourquoi pas moi? J'ai étudié l'économie et les sciences commerciales en plus du droit. Parce qu'il s'est aperçu que le droit, c'était pas pour lui, mais les sciences commerciales, puis l'économie, ça marchait pour lui. En raison de mon penchant pour l'alcool, j'ai failli échouer à mon cours de droit. Je me suis présenté à un des derniers examens, trop ivre pour écrire ou même penser. Moi, je peux refléter là-dessus parce que moi, quand j'ai fini mon école à Montréal, un examen de fin d'année, que je suis pas allé, que j'ai pas gradué cette année-là, j'étais trop saoul, j'avais bu trop la veille, j'ai pas pu aller là. Fait que, on va voir les ressemblances qu'on a, qui sont un peu différentes, mais comment est-ce qu'on peut ressembler à Bill dans notre maladie. Même si je ne buvais pas encore de façon continue, ma femme s'inquiétait. Nous avions de longues conversations au cours desquelles je tentais de la rassurer en lui disant que les hommes de génie avaient d'ailleurs leurs meilleures idées sous l'effet de l'alcool. que les plus sublimes théories philosophiques étaient nées de la même façon. Tu sais, ça prend un alcoolique pour essayer de persuader quelqu'un que quand on est sous, qu'on pense le mieux, qu'on agit le mieux. À la fin de mon cours de droit, je savais que j'étais pas faite pour cette discipline. J'étais envoûté par le tourbillon de Wall Street. J'ai aperçu qu'avocat, c'était pas si payant que ça. Il pouvait se mettre plus riche plus vite avec le Wall Street. Les bons de la finance et du monde des affaires étaient mes héros. Ceux qui faisaient de la grosse argent, c'était ces héros habiles, puis c'est ça qu'ils voulaient faire. Mêlant alcool et spéculation, j'ai commencé à forger l'arme qui un jour se retournerait contre moi comme un boomerang et me réduirait en pièces. Bill compare sa vie à un boomerang parce que Bill, quand il était petit gars, son grand-père il avait conté une histoire d'un Australien qui avait inventé un jouet qu'il pouvait lancer puis il revenait dans les mains lui-même. Bill, après du temps, il a fini par en faire un qui fonctionnait. C'est pour ça qu'il compare sa vie avec un boomerang. Il a lancé sa vie, mais il est revenu d'en face plus tard. En réduisant nos dépenses, ma femme et moi avons économisé 1 000 $. Cet argent a servi à acheter des titres à leur bon marché et peu recherchés. J'avais pensé avec raison que ces titres prendraient beaucoup de valeur un jour. Bill, c'est un gars qui avait beaucoup de vision. Il était bon là-dedans. J'avais pas réussi à convaincre mes amis de la bourse de m'envoyer examiner la gestion d'usines et d'entreprises, mais j'ai décidé avec ma femme d'y aller quand même. Pourquoi que c'est pas allé l'entreprise n'a pas voulu l'envoyer parce qu'il voyait que Bill il buvait trop. Fait qu'ils ont dit on n'a rien de l'envoyer, on va avoir toutes sortes de rapports tout croche. Mais Bill a décidé de lui-même d'y aller de lui-même avec sa femme. J'avais développé la théorie voulant que la plupart des gens perdent de l'argent à la bourse à cause de leur ignorance des marchés. Plus tard, j'allais découvrir beaucoup d'autres raisons. Nous avons quitté nos emplois et parti à l'aventure sur une motocyclette dont nous avions chargé le sidecar d'une dame de couverture de vêtements, de réchange et 3 énormes annuaires de références boursières. Nos amis nous disaient fous alliés. Certains laissaient ses deux jobs pour partir à l'aventure de même, de quoi que c'était jamais fait. Le monde, il n'approuvait pas tout, c'est sûr. Il dit, nos amis nous disaient fous alliés. Il y avait peut-être raison. Grâce à quelques spéculations heureuses, nous avons un peu d'argent de côté, mais il nous est arrivé une fois de devoir travailler dans une ferme pendant un mois pour éviter de puiser dans notre petit capital. Bill Warning a perçu que son montant d'argent baissait, puis il a dit, on fera pas à run. Fait qu'il était en campagne, puis en passant, il y avait une place qu'un fermier avait besoin d'aide, ça marquait qu'il avait besoin d'aide. Fait qu'il allait cogner à la porte, le fermier a dit, oui, on a besoin de quelqu'un, mais il dit, je peux pas engager ta femme. Fait que là, Bill il a dit au fermier, il a dit, ta femme, toi, elle connaît ça, la ferme, elle connaît le travail là. Elle dit, oui, elle est aussi bonne que moi là-dedans. Mais elle dit, pourquoi qu'elle n'emmène pas travailler avec nous autres, puis ma femme, elle va faire à manger. Elle. Bill, de même, il s'est fait engager, puis engager sa femme. Mais sa femme, elle n'avait jamais fait à manger. Mais il l'a jamais dit. Elle a appris sur le tas. Ça a marché. Bill, c'est un bon vendeur pour lui donner ça. Je n'allais pas connaître, avant fort longtemps, un autre travail manuel honnête. Il n'a jamais travaillé physiquement après ça, Bill. En une année, nous avons couvert tous les États-Unis. Les rapports que j'avais envoyés à Wall Street pendant 7 ans m'ont valu à notre retour un poste d'associé et un compte de frais. Cette année-là, l'exercice d'un droit d'option a donné lieu à des rentrées de fonds supplémentaires qui se sont traduites par un profit de plusieurs milliers de dollars. Des milliers de dollars en 1920, là, ça valait bien de l'argent, puis plusieurs milliers. Fait que Bill il a connu réellement la richesse. Au cours des quelques années qui ont suivi, la chance m'a apporté argent et honneur. Tout progressait, ça allait bien, puis tout allait bien pour lui. J'avais réussi. Nombreux étaient ceux qui adoptaient mes idées et qui se fiaient à mon jugement dans cette ronde de millions sur papier. La grande vague de prospérité de la fin des années 20 déferlait sur le monde économique. Bill ne savait pas qu'il y avait un bout à ça. Ça allait bien, puis il dépensait, puis ça roulait. Prendre un verre était devenu chose importante pour moi et mettait du piquant dans la vie. Ça l'attisait, Bill, de prendre un verre. En ville, on parlait haut et fort dans les boîtes de jazz. On dépensait des milliers et on parlait en millions. Après qu'un monde prenne une coupe de drink, ils étaient tous plus riches les uns que les autres. Les railleurs pourraient bien se moquer et aller au diable. Je m'étais fait une foule d'amis des beaux jours. Ben oui, les amis des beaux jours, c'est facile. Quand tu as de l'argent et tu payes la traite, tu as un paquet d'amis. Bill, il y avait beaucoup d'amis, il y a de l'argent et il n'avait pas peur d'en dépenser. Ma consommation d'alcool a augmenté sérieusement. Je buvais continuellement le jour et presque tous les soirs. Les remontrances de mes amis dégénéraient en dispute et je me suis retrouvé tel un loup solitaire. C'est chum, il disait à Bill, pourquoi t'arrêtes pas après que tu ne prennes une coupe? Bill, ça va moins bien parce que pourquoi t'arrêtes pas? Puis Bill, il a réussi à se faire dire ça, ça fait qu'il revirait de bord, puis il s'est ramassé tout seul. Il y a eu de nombreuses scènes malheureuses dans notre somptueux appartement. Bill était riche, il avait un appartement de luxe, mais ça ne marchait pas trop bien parce qu'il était tout le temps sous. Je n'avais jamais été réellement infidèle à ma femme qu'à ma loyauté envers elle. Parfois, aidé de mon état extrême d'ébriété, me gardait de ses ennuis. Il n'a jamais triché sa femme, vraiment parce qu'il était trop sous bien des fois. Excusez. En 1929, j'ai eu la fièvre du golf. Nous nous sommes aussitôt installés à la campagne où ma femme m'applaudissait pendant que je tentais de surpasser les exploits de Walter Hagen. C'était comme Tiger Woods était, mais il le disait. C'est ça. Puis là, Bill, il voulait devenir aussi bon que lui, même dépasser Walter Hagen. C'était dans les années 20. L'alcool a cependant pris le dessus plus vite que j'ai pu rattraper Walter. J'ai commencé à être saisi de nombreux tremblements le matin. Le golf constituait une occasion de boire et tous les jours et tous les soirs. Je prenais plaisir à évoluer sur le parcours du club Select qui m'avait tant impressionné lorsque j'étais jeune. Bill aurait voulu aller jouer au golf quand il était jeune, mais il ne pouvait pas se payer ça. Et ça l'impressionnait, puis là, il y avait l'argent. Fait qu'il allait pour compétitionner avec les meilleurs. Le banquier de la localité me regardait déposer et encaisser des gros chèques avec un scepticisme amusé. Le banquier disait, ça va finir par arrêter, ça se peut pas, de sortir des milliers, puis de ramener des millions la semaine d'après, quelque chose. Il dit, voilà quoi qui va se passer à un moment donné. Puis, en octobre 1929, brusquement, l'enfer s'est déchaîné à la bourse de New York. À la fin d'une de ces journées infernales, je passais en titubant d'un bord d'un hôtel à un bureau de courtage. Bill allait boire, il revenait au bureau de courtage, ça se replaça pas, c'était de mal en pire. Il était 8 heures, la bourse avait fermé ses portes à 5 heures, 5 heures plus tôt, à 3 heures de l'après-midi, la bourse a fermé. Le télégraphe fonctionnait encore. Je fixais un bout de papier sur lequel était inscrit XYZ moins 32. Le matin du même jour, ce titre coterait à 52. Fait que le titre a baissé de 32 points dans une journée. J'étais ruiné et plusieurs de mes amis aussi. Les journaux rapportaient que des hommes s'étaient suicidés en se jetant du haut des tours de la bourse. Ça me révoltait. Moi, je ne me suiciderais pas. Je suis retourné au bar. Mes amis avaient perdu plusieurs millions depuis 10 heures le matin. Et alors, demain, c'est un autre jour. Tout en buvant, je me sentais envahi de nouveau par la même détermination féroce de gagner que j'avais autrefois. En prenant un verre, il s'est dit dans sa tête, là, ça va reprendre, je vais être mieux, puis tout va bien aller. Comme dirait notre premier ministre. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à un ami de Montréal. Son ami s'appelait Dick Johnson. Il travaillait pour Greenshield & Company. Il lui restait encore beaucoup d'argent. Il croyait que je ferais mieux d'aller m'installer au Canada le printemps suivant. Ma femme et moi avions repris notre train de vie habituel. Encore une place somptueuse, puis aller boire régulièrement. Je me sentais comme Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Pas d'île Sainte-Hélène pour moi. Mais l'alcool m'ayant rattrapé, mon généreux ami fut contraint de se séparer de moi. Cette fois, nous allions rester sans argent. Bill, il dit qu'il se sentait comme Napoléon. Napoléon s'est fait déporter à un moment donné. Il s'est libéré de ça. Fait que Bill, il était libéré. Il pensait que c'était pour continuer pour tout le temps comme ça. Nous sommes allés vivre chez les parents de ma femme. J'ai trouvé un emploi que j'ai perdu à la suite à cause d'une querelle avec un chauffeur de taxi. Il s'est battu que le chauffeur pour pas payer la run, puis ça s'est su, puis le chauffeur a déclaré ça, puis il a perdu la job qu'il avait. J'ai trouvé un emploi. Okay. Heureusement, personne ne pouvait deviner que pendant 5 ans, j'allais demeurer sans emploi véritable et ne pas dégriser un seul instant. Ma femme avait trouvé du travail dans un grand magasin, qui est le magasin Macy's aux États-Unis. Et quand elle rentrait à la maison épuisée, elle me trouvait sous. Chez les courtiers où je traînais, j'étais devenu un indésirable. Bill aimait ça quand il dégrisait un peu, aller voir les courtiers, mais il était à moitié sous, puis il ne parlait pas comme du monde. Fait qu'il voulait, les courtiers ne voulaient même plus le voir là. L'alcool était désormais plus un luxe, mais une nécessité. Il était obligé de boire, il ne pouvait pas vivre sans boire. 2 et parfois 3 bouteilles de gin de contrebande par jour avaient fini par constituer ma ration coutumière. Bill, il achetait de l'alcool de bois qui se vendait dans les magasins parce que c'était la période de la prohibition de 1920 à 1938. C'est là que Bill a bu le plus dans la prohibition. Il s'achetait ces bouteilles d'alcool-là, il mélangeait avec des herbes pour se faire du gin. C'est pour ça qu'il avait le moyen de se faire ça parce qu'il n'avait pas d'argent. De temps en temps, une petite transaction me rapportait quelques centaines de dollars. J'acquittais alors mes dettes dans les bars et les casse-croûtes. Une fois de temps en temps, il dégrisait un peu, il faisait une couple de transactions. L'argent qu'il faisait, bien, il tournait à passer les bars puis ce qu'il mangeait ou qu'il buvait pour les payer pour qu'il laisse continuer son manège. Le même manège se répétait sans cesse et j'ai commencé à m'éveiller très tôt le matin, secoué de violents tremblements. Il me fallait boire au moins un grand verre de gin et 6 bouteilles de bière avant d'être en mesure de prendre mon petit déjeuner. Le déjeuner, il ne va pas être fort, c'est sûr. Néanmoins, je demeurais convaincu de pouvoir maîtriser la situation et je traversais des périodes de sobriété qui redonnaient espoir à ma femme. Bill, il a tout le temps voulu arrêter de boire. Il arrêta de boire. Quand il arrêta de boire, il déménageait en campagne. Il n'était pas là longtemps. L'obsession le prenait assez fort. Il disait à sa femme, il faut que j'aille en ville, il y a des choses à aller faire. S'en allait en ville, puis il se saoulait. Puis, des fois, qu'elle passait des jours à essayer de le retrouver. Puis, à un moment donné, elle le retrouvait sous d'un bord. C'est alors qu'une affaire prometteuse s'est présentée. Les actions étaient à leur plus bas niveau de l'année 32. J'avais réussi tant bien que mal à former un groupe d'acheteurs. Je devais toucher une part généreuse des profits. Mais une cuite magistrale m'a fait perdre cette occasion. Il avait tout mis un beau deal ensemble. Il faut faire un paquet d'argent. Et avant que ça se produise, il est allé se saouler, puis il a tout perdu. Ce coup m'a ouvert les yeux. Il fallait que ça cesse. Je me suis rendu compte que je ne pouvais plus prendre même un seul verre. Il avait réalisé ça que quand il commençait, il ne pouvait plus arrêter. J'en avais fini pour toujours. Jusque-là, j'avais fait des quantités de belles promesses, mais ma femme a senti tout heureuse que j'étais vraiment sérieux cette fois. En effet, il l'était. Il déménageait en campagne pour pas être parce que la prohibition, il n'y a pas de boisson à vendre, là, il n'y a pas rien. Il y a plusieurs fois, il a déménagé en campagne, puis il s'est ramassé tout le temps en ville. Peu de temps après, je suis rentré ivre à la maison. Je n'avais même pas résisté. Qu'était-il donc arrivé de ma grande résolution? Je n'en avais pas la moindre idée. Je n'y avais même pas pensé. Quelqu'un m'avait tendu un verre et tout bonnement, je l'avais pris. Était-je devenu fou? Je commençais à me le demander. Tant d'inconséquences me semblaient frôler la démence. Moi, j'ai fait ça aussi. Moi, j'arrêtais de boire des périodes de temps, mais je me tenais au bar tout le temps. Pour m'en donner, ben, je pourrais supposer de boire. Je me dis, je ne boirais pas. Quelqu'un me donne un verre, il arrive à une chambre, il se couche pas. Viens, ouais, il boit juste un. Je le prends, puis je me saoule encore. Puis là, je me demande comment ça, je me suis encore saoulé. C'est pas ça que je voulais faire. J'étais allé là pour avoir des amis, même pas pour boire. Finalement, je me suis saoulé. Comme Bill a dit, ben, tant des conséquences, ça semble frôler la démence. Puis essayez de trouver les parties qui peuvent vous rappeler la vie de Bill, que ce soit un peu ce que vous avez fait avant de vous rétablir. J'ai renouvelé ma résolution et j'ai essayé de nouveau. Après un certain temps, la confiance que j'avais acquise a commencé à faire place à de la présomption. La présomption, on voit là tout de suite, c'est l'obsession qui commence à entrer. Je pouvais tourner le dos au bar et à l'alcool. J'avais désormais ce qu'il fallait. Un jour, je suis entré dans un café pour téléphoner. En un rien temps, j'étais au bar, martenant le comptoir en me demandant comment c'était arrivé. Mais parce qu'on va pas prendre, on prend le café chez McDonald's, on va pas prendre le café chez qui vend de la boisson. À mesure que le whisky me montait à la tête, je me disais que ça mentirait mieux la prochaine fois et que pour l'instant, il valait mieux prendre un bon coup, ce que j'ai fait. Je ne pourrai jamais oublier les remords, l'horreur et le désespoir que j'ai ressenti aux premières lueurs du jour. Quand on dégrise d'une grosse brosse, c'est ça que ça fait, le désespoir qu'on ressent. Le courage de combattre n'y était tout simplement pas. Je n'arrivais pas à mettre de l'ordre dans ma tête agitée, puis j'avais le sentiment terrible d'une catastrophe imminente. Il savait qu'il va se passer quelque chose, ça ne peut pas continuer de même. Il faisait à peine jour, je n'osais pas traverser la rue de peur de m'effondrer et d'être écrasé par un camion. Je suis entré dans un établissement ouvert toute la nuit pour y boire une douzaine de verres de bière. Mes nerfs crispés sont enfin calmés. En lisant le journal du matin, j'ai appris que le marché avait encore une fois coulé à pic. Comme moi. Mais le marché s'en remettrait, mais pas moi. Cette pensée m'a fait mal. Me suicider, non. Pas maintenant. Puis mon esprit s'est embrouillé et alourdi. Un gin arrangerait les choses, mais j'ai pris deux bouteilles et tout est tombé dans l'oubli. Perdre la carte encore une fois, puis c'est pas ce qui va se ramasser. Le corps et l'esprit sont des merveilleuses machines, car les miens ont résisté à cette agonie pendant 2 autres années. Parfois, lorsque la terreur et la folie du matin s'emparaient de moi, je volais de l'argent dans le maigre portefeuille de ma femme. Puis, étourdi et vacillant, j'allais à la fenêtre ouverte ou jusqu'à l'armoire de la pharmacie où était rangé du poison, et là, je me traitais de poule mouillée, parce qu'il n'y avait pas le courage de prendre le poison, puis il n'y avait pas le courage de se tirer en bas de l'appartement. Ma femme et moi faisons des allers et retours à la ville, à la campagne, pour chercher à fuir cette situation. Plusieurs fois, comme je l'ai dit à l'heure, il a déménagé en campagne. Mais ça tenait pas. Un soir, la torture physique et mentale est devenue si atroce que j'ai eu peur de sauter par la fenêtre. Pour échapper à la tentation, j'ai traîné tant bien que mal mon matelas jusqu'à l'étage inférieur. Dans Louis se raconte, Louis a dit que c'est pas lui qui a tiré le matelas en bas, c'est elle. Le médecin est venu m'administrer de puissants sédatifs. Le lendemain, je mêlais gin et sédatifs. Ce cocktail eut le fait de me terrasser. On craignait pour ma santé mentale, moi de même. Lorsque je buvais, je mangeais rien ou presque rien et j'étais 40 livres au-dessous de mon poids normal. Grâce à la sollicitude de ma mère et de mon beau-frère médecin, sa mère, c'est un ostéopathe, puis son beau-frère s'appelait Léonard Strom, c'est un docteur. J'ai été admis dans un hôpital connu dans tout le pays pour son programme de réhabilitation physique et mentale pour alcooliques. Parce que dans ces années-là, il n'y avait pas d'assurance. Il y a juste ceux qui avaient de l'argent qui pouvaient se faire traiter. Puis Bill, ben, le mari de sa sœur était un docteur, puis sa mère était un ostéopathe. Il avait de l'argent pour payer son temps à l'hôpital. Sous les effets d'un traitement à la baladone, mon esprit s'est éclairci. La baladone, c'est comme du venin qu'il injectait dans les veines pour le traiter de ça. L'hydrothérapie et de légers exercices m'ont aussi fait du bien. Mieux encore, j'ai connu un médecin compréhensif. Il m'a expliqué que j'étais incontestablement égoïste et cervelé. J'avais néanmoins été gravement malade, physiquement et mentalement. C'est le docteur Silkworth qui a expliqué la maladie à Bill. On va voir ce que Bill a fait avec ça. J'ai été quelque peu soulagé d'apprendre que chez les alcooliques, la volonté est étonnamment faible lorsqu'il s'agit de combattre l'alcool, alors que souvent, elle est ferme dans d'autres domaines. Le docteur il a expliqué ça. Quand ça vient à l'alcool, la tête a condémandé. Je trouvais enfin d'explication à mon comportement incroyablement en désaccord avec mon désir intense de cesser de boire. Comprenant enfin ma condition, je suis parti plein d'espoir. Pendant 3 ou 4 mois, l'optimisme a donné des ailes. Bill y a pensé qu'il était guéri, tout ira bien. J'allais en ville régulièrement et même fait un peu d'argent. La connaissance de soi, voilà, se trouvait sûrement la réponse. Puis là, il lui dit, c'était pas la bonne réponse, car le jour terrible est venu où j'ai bu de nouveau. Même après tout ce que le docteur y a expliqué, Bill le retournait voir pareil, parce qu'il n'avait pas compris l'obsession. Ma santé morale et physique a coulé à pic. Après un certain temps, je suis retourné à l'hôpital. J'ai eu l'impression que c'était la fin, de tomber du rideau. Ma pauvre femme exténuée et désespérée a été prévenue de mon état. Le docteur lui a expliqué à sa femme exactement ce qu'elle a se passer avec Bill. J'allais mourir d'une défaillance cardiaque au cours d'une crise de délirium tremens ou bien devenir un cas d'imprégnation éthylique, peut-être en moins d'un an. Bill, il allait mourir d'une crise cardiaque parce que quand tu fais un délirium tremens, tu vois toutes sortes de choses apparaître qui n'existent pas. Ou devenir une imprégnation éthylique, c'est que devenir un wet brain. Il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus de conscience de ce qui arrive et ce qui n'arrive pas. Devient neutre complètement. Bientôt, elle devrait se résoudre à me confier aux soins des pompes funèbres d'un hôpital psychiatrique. Le docteur il a dit c'est ça qui va arriver, c'est les deux choix qu'il y a. Personne n'avait besoin de me le dire. Je le savais déjà, j'en étais presque heureux. Bill, il voyait la fin, il est à point de se tuer, il va mourir sur le point loin de lui. C'était un coup mortel portant à mon orgueil. Bill qui disait qu'il était pour montrer au monde comment qui c'est qu'il était et comment qu'il allait être. Un coup mortel portant à mon orgueil. Voilà que moi, qui avais une si haute opinion de moi-même, et de mes aptitudes et de ma capacité à surmonter les obstacles, j'étais finalement battu. Bill, il a pas rien qu'il n'a pas réussi à faire. Il n'était pas bon au baseball, il est devenu un des meilleurs lanceurs. Tout ce qui s'est mis là-dedans, il l'a fait puis il l'a obtenu. Mais là, arrêter de boire, il n'était pas capable. J'étais finalement battu. J'allais maintenant plonger dans le noir, me joignant au défilé sans fin des idiots qui étaient déjà passés par là. Parce qu'il y en avait dans l'aide psychiatrique, le docteur il en a montré les cas des principes les gars n'ont plus de, ils savent plus ce qui se passe puis sont contents sans le savoir. Je pensais à ma pauvre femme. Nous avons été heureux malgré tout. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait pour me faire pardonner, mais il était désormais trop tard. Il a pensé qu'il ne pouvait plus se remettre, c'était impossible. Il était passé le point tournant, puis que là, je pense à ma pauvre femme, elle va être à part de son mari, puis il ne pouvait pas rien faire pour ça. Il n'y a pas de mots pour décrire la solitude et le désespoir que j'ai vécu dans l'amère noirceur de l'apitoiement. Pauvre petit Bill. Tu sais, Bill s'est apitoyé sur toi-même. Regarde, qu'est-ce qui m'arrive. Regarde, qui m'arrive encore un si bon gars. Un gars si bien que moi qui veut tellement arrêter de boire. Puis regarde, qu'est-ce qui m'arrive encore. Je me sentais comme entouré de sable mouvant. J'avais trouvé un adversaire à ma mesure. J'étais vaincu. L'alcool était devenu mon maître. Il ne pouvait plus s'en passer. Il pouvait plus boire, puis il ne pouvait plus arrêter de boire. Lorsque j'ai quitté l'hôpital en tremblant, j'étais un homme brisé. Il a quitté l'hôpital avec sa femme, puis il savait qu'il n'y avait plus, il avait plus, il a rien à faire avec lui. La peur m'empêchait de boire un moment. Puis le jour de l'armistice, qui était le 11 novembre 1934, l'insidieuse aberration de ce premier verre m'a repris et encore une fois, j'ai bu. L'obsession s'est retournée tellement forte la journée de l'armistice, puis il y avait été un soldat et il a recommencé à boire. Tous étaient résignés et acceptaient l'éventualité certaine de mon internement ou de ma fin misérable. Comme il fait noir avant l'aurore. En fait, je vivais le début de ma dernière débâcle. J'étais sur le point d'être catapulté dans ce qui me plaît d'appeler la quatrième dimension de l'existence. J'allais découvrir, c'est quoi la quatrième dimension de l'existence? Ben, c'est ça. J'allais découvrir le bonheur, la paix et une raison d'être grâce à un mode de vie qui se révèle incroyablement plus merveilleux de jour en jour. On nous parle de notre mode de vie des 12 étapes. Cette Bill a été précipité là-dedans. Il allait être précipité là-dedans. Une de ces tristes après-midi de la fin de novembre, je prenais un verre assis dans ma cuisine. J'étais assez content de penser qu'il y avait suffisamment de gin caché dans la maison pour me permettre de passer la nuit et le jour suivant. C'était fait d'une bonne précaution. Ma femme était au travail. Je me demandais si j'oserais cacher une bouteille de gin près de la tête de notre lit. J'en aurais besoin avant le jour. Puis peut-être qu'il va être de la misère à se lever, fait qu'elle va juste la porter de la main pour pouvoir prendre sa bouteille de gin. Et il a peur de le cacher proche pour que sa femme elle le voie et elle le vide. Téléphone a interrompu ma rêverie. D'une voix remplie de bonne humeur, un ancien camarade d'école me demandait s'il pouvait poser me voir. Il était à jeun. Je me souvenais pas qu'il soit venu à New York dans cet état depuis des années. J'étais abasourdi. La rumeur avait couru qu'il avait dû être enfermé pour démence alcoolique. Je me demandais bien comment il a pu s'en sortir. Bien sûr, il dînait à la maison et alors je pourrais boire avec lui sans me cacher. Peu soucieux de son bien-être, je pensais seulement à retrouver l'ambiance des jours passés. Un jour, nous avions affrété un avion pour terminer une cuite. Sa venue me semblait un oasis dans le triste désert de ma vie insignifiante. C'était bien sûr un oasis. Les buveurs ont fait ainsi. Il a vu son chum arriver. Son chum, il va venir, on va prendre un coup. On va se rappeler des bons coups d'autrefois. Il y a un nouvel aéroport qui avait ouvert en ce temps-là à Manchester, New York. Et puis, son chum, Ted Burke, puis Abby Thatcher, ils ont décidé d'aller être les premiers qui allaient rentrer. Fait qu'ils ont appelé le maire pour lui dire, on s'en vient, fait l'ouverture de l'aéroport, on est le premier avion qui va atterrir là. Ils ont loué un avion, ils ont atterri sous les toits, ils ont débarqué de l'avion, ils ont tombé à terre sur le tarmac, et puis le maire avait amené une fanfare, puis tout, puis c'est là que Bill s'est ramassé à terre. Lorsque la porte s'ouvrit, il se tenait là, son chum inadapté, dit qu'il s'en venait, puis Bill a rêvé entre-temps. Lorsque la porte s'ouvrit, il se tenait là, le teint frais et l'air épanoui. Il y avait quelque chose de particulier dans ce regard. Il était différent, sans que je puisse expliquer comment. Qu'est-ce qui s'était passé? Il a demandé. J'ai tendu un verre, il a refusé. Déçu, mais curieux, je me demandais ce qui avait arrivé à mon ami. Il n'était pas lui-même. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Simplement, mais en souriant, il m'a dit, j'ai trouvé la religion. J'étais horrifié. C'était donc ça. L'année dernière, scindé de l'alcool, maintenant j'en avais bien l'impression, scindé de la religion. Mais il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Mon ancien copain s'était bel et bien enflammé pour la religion. Je voulais bien le laisser discourir, et puis mon gin durait plus longtemps que son sermon. Il dit, ben, peux m'en parler de sa religion tant qu'il voudra. On va prendre mon gin, puis je vais avoir plus de gin qui va avoir la parole, puis ça va durer un certain temps. Mais il a parlé sans emphase. Il a pas essayé de me convertir. Il a parlé sans emphase. Posément, il m'a raconté comment deux hommes s'étaient présentés à la cour. Il avait persuadé le juge de suspendre sa sentence d'internement parce que Bill avait entendu que son chum était pour se faire interner à cause d'alcoolisme. Puis là, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, son chum, il a compté. Il a dit que 2 mois auparavant, Roland Hazard et puis le fils du juge, ils ont été allés voir le juge, puis ils ont dit, laisse-nous-les, on va en avoir soin de Bill, disons. Puis le juge, la juge Grave, il a dit, je vais vous laisser, mais si jamais qu'il revient ici, présentez-vous, pas Bill, mais Abby, c'est-à-dire, il dit, présentez-vous pas parce que je vais l'enfermer, c'est sûr. C'est à partir de là. Ça s'était produit 2 mois auparavant et le résultat était éloquent, ça marchait. Bill le voyait, son chum, il a les yeux ronds, il a les yeux frais. Tabarouette, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, Bill, il me dit, il était venu me faire bénéficier de son expérience si je le désirais. J'étais renversé. Mais la chose m'intéressait, bien sûr qu'elle m'intéressait. Je pouvais pas faire autrement, j'avais plus d'espoir. Bill, il était en veille de se faire enfermer. Et puis, son chum m'a dit comment que lui a réussi à pas se faire enfermer, puis être joyeux, heureux et libre, sans boisson. Puis il dit, il a parlé pendant des heures. Les souvenirs de mon enfance me revenaient à l'esprit. Il me semblait entendre comme autrefois lors de paisibles dimanches le prédicateur dont la voix me parvenait à loin sur les collines où j'étais assis. Son grand-père, il n'était pas religieux. Puis Bill, il n'allait pas à l'église, donc Bill, il n'y allait pas. Mais dimanche matin, Bill allait s'asseoir dans le bas de la montagne, des montagnes, ça retentissait. Puis là, quand son chum et Bill y parlaient, Bill semblait entendre, puis avec la même résonance dans sa tête que ce que le prédicateur disait quand il était assis au pied de la montagne. J'ai pensé au vœu de tempérance que j'avais jamais prononcé au mépris bonhomme de mon grand-père pour certains gens d'Église et l'agissement. Son grand-père il avait averti de ne pas boire. Là, ça y revenait à l'idée. Puis son grand-père il avait un mépris pour les gens d'Église, puis il s'en foutait de ça. Je me rappelais comment mon grand-père croyait à la musique des sphères célestes, mais refusait au prédicateur le droit de lui dire comment l'écouter, et son absence de peur à l'heure qu'il parlait de ces choses juste avant de mourir. Tous ses souvenirs refaisaient face, j'en avais la gorge serrée. Bill, il repensait à ça, son grand-père, quand il est mort, puis tout ce qui s'est passé. Puis Abby était devant lui, puis il parlait, puis Bill, il ne pouvait plus parler. J'ai repensé à ce jour de la guerre où j'avais visité la cathédrale de Winchester, où j'ai vu l'épitaphe que le soldat est à mort par le pochet, pas par le mousquet. J'avais toujours cru une puissance supérieure. Ça, c'est une des phrases les plus importantes, peut-être, dans l'histoire de Bill. Bill, il nous dit, j'ai toujours cru une puissance supérieure. J'avais souvent réfléchi à ces choses. J'étais pas athée. Peu de gens le sont réellement, car l'athéisme implique une voie aveugle dans l'hypothèse étrange que cet univers sorti de néant et mène nulle part. Bill dit, j'ai toujours cru en quelque chose. J'ai toujours cru une puissance supérieure de quelque manière. Mes idoles, les intellectuels, les chimistes, les astronomes et même les évolutionnistes supposaient que de grandes lois et de grandes forces régissaient le monde, en dépit d'indices qui laissaient croire le contraire. Il semblait évident qu'un principe ou un ordre tout puissant sous-tendait tout cela. Comment pouvait-il exister tant de lois précises et immuables sans l'intervention d'une forme d'intelligence? Il ne pouvait pas faire autrement que de croire en un esprit de l'univers, lequel ne connaissait ni temps ni limite, mais je n'étais jamais allé plus loin. C'est là que je m'éloignais des ministres du culte et du monde de la religion. Bill croyait un être suprême, il croyait qu'il y avait quelque chose, mais il ne pouvait pas déterminer c'est quoi. Puis il me dit, lorsqu'on me parlait d'un Dieu qui m'était personnel, d'un Dieu qui était amour, force surhumaine et guide, je devenais irrité. Et mon esprit se fermait d'un coup à pareille théorie. Surtout quelqu'un qui parlait qu'il pouvait avoir un Dieu différent de ce que lui avait, son esprit se fermait complètement. Puis là, Bill, il nous parle, il n'était pas un chrétien. Au Christ, je connaissais la valeur d'un grand homme dont l'exemple était plus ou moins suivi par ceux qui se réclament de lui. C'est un bon bonhomme, le Christ, il dit, je le sais, mais le monde qui se dit chrétien n'agisse pas trop haut comme il devrait. Son enseignement au Christ, excellent. Pour ma part, j'en avais retenu les principes qui me semblaient pratiques, puis qui n'étaient pas trop exigeants. Le reste, je l'écartais. J'ai pris, je faisais mon affaire, puis laissé le reste là. On entend souvent ça d'en haut. Mais ce que c'est que ça veut dire, prendre ce qui fait notre affaire, puis laisser le reste là, c'est parce que peut-être que je ne peux pas tout comprendre d'un coup. Je vais prendre ce que je peux comprendre, puis je vais revenir chercher le reste plus tard. Mais je ne le laisse pas là, parce qu'il est là, le reste. Les guerres, les bûchers, les querelles que les luttes religieuses avaient engendrées me dégoûtaient. Je me demandais vraiment si tout compte fait les religions de l'humanité avec quelque chose de bon. On en jugé parce que j'ai vu en Europe, quand il est allé à la guerre, et depuis la puissance de Dieu dans les affaires humaines était négligeable. Et la fraternité des hommes, une sinistre comédie. Si le diable existait, il semblait avoir le plus grand patron de la destinée humaine, des choses certaines, il me tenait. Mon ami qui était resté assis devant moi a déclaré de but en blanc, que Dieu a fait pour lui ce qu'il n'avait jamais pu faire pour lui-même. Dieu a arrêté Abby de boire des choses qu'il n'a jamais pu faire de lui-même. Puis il dit, la médecine l'avait déclaré irrécupérable, la société s'apprêtait à l'enfermer. Comme moi, il avait admis sa défaite totale, il savait qu'il n'avait plus rien à faire. Puis il est littéralement ressuscité des morts, soudainement tiré des bas-fonds pour accéder à une vie meilleure que tout ce qu'il avait connu auparavant. Son chum est venu lui dire, Abel, il a dit, je ne bois plus, puis je vais mieux, j'ai jamais été dans toute ma vie, je changerai pas ma vie d'aujourd'hui pour celle d'autrefois. Bill, il n'en revenait pas. Cette force venait-il de lui? Non, bien sûr. Il n'avait pas envie plus de force que j'en avais en 7 minutes même, c'est-à-dire absolument aucun. Et Bill, il n'était pas plus fin que Bill, il n'était pas mieux que Bill, puis Bill le voyait même et dit, c'est passé quelque chose. J'étais renversé. Je commençais à croire que les gens de religion avaient peut-être raison après tout. Il s'était passé quelque chose dans le cœur d'un homme et cette chose avait réussi l'impossible. Arrêter Abby de boire. Mon opinion sur les miracles a changé sur le champ. Fini les opinions d'autrefois. Le miraculé était là, assis en face de moi, de l'autre côté de ma table. Il m'apportait de grandes nouvelles. Bill ne pouvait pas faire autrement que de dire, c'est un miracle, c'est impossible. Moi, je ne peux pas arrêter de boire. Lui, il était pire que moi, il arrêtait de boire en venant à croire à quelque chose de différent. Ben, voyons donc. J'ai constaté que mon ami avait fait plus que de mettre de l'ordre dans sa vie intérieure. Il n'a pas juste cru en Dieu, il a fait d'autres choses. Okay? Il évoluait sur une base différente. Il avait pris racine dans un sol nouveau. C'est comme si son chum avait été transplanté. Il était totalement différent. Bill avait de la misère à reconnaître. Malgré cette preuve vivante qu'était mon ami, des restes des vieux préjugés persistaient dans mon esprit. Il avait encore de la misère à penser. On va voir ce que son ami lui a dit. Le mot Dieu soulevait encore en moi une certaine antipathie. Mon sentiment de révolte s'est intensifié lorsque fut exprimée l'idée qu'un Dieu existait peut-être pour moi. Car un Dieu pour moi, ben voyons donc, ce concept me déplaisait. J'acceptais qu'on parle d'une intelligence créatrice, d'un esprit de l'univers ou de l'âme de la nature, mais je résistais au concept d'un empereur des cieux, si aimable que puisse être sa domination. Depuis, j'ai parlé d'une quantité d'hommes qui pensaient comme moi. Moi, le premier, je pensais comme Bill quand j'ai arrivé. Je ne voulais rien savoir de Dieu, puis s'il y en avait un Dieu, je ne voulais pas le connaître, je ne voulais pas le savoir. Puis là, il me dit, mon ami m'a fait une suggestion qui m'a semblé nouvelle. Pourquoi ne choisis pas ta propre conception de Dieu? Puis ça l'a réveillé, ça l'a donné un coup de marteau dans la tête à Bill, ça. Il dit, voyons, comment ça? Pourquoi ne choisis pas ta propre conception de Dieu? Sa proposition m'a ébranlé. J'ai senti fondre les montagnes de glace des préjugés intellectuels dans l'ombre desquels j'avais vécu et tremblé pendant des années. Enfin, je retrouvais la lumière du soleil. Bill, il s'est dit, ça fait pas de sens. Voyons, comment je peux faire une conception de Dieu moi-même? Puis il dit, quand il a compris ça, les montagnes de glace des préjugés intellectuels, les préjugés, c'est ce qu'on a toujours pensé. Les préjugés intellectuels, ils ont fondu. Puis enfin, je vais pouvoir croire à quelque chose de différent que j'ai toujours cru. Il suffisait que j'accepte de croire à une puissance supérieure à moi-même. J'avais rien de plus à faire pour commencer. Son chum il a dit, si imparfaite que soit ta conception, change ta conception, sans ça, tu ne passeras pas à travers. Il n'y avait rien de plus à faire que de changer sa conception. J'ai vu ce que pouvait être le point de départ de la croissance, parce qu'il a commencé à croire à quelque chose de bien différent, de bien petit. En adoptant une attitude de complète bonne volonté, ça me prend de la bonne volonté, je pourrais connaître le changement que je constatais chez mon ami. Pouvais-je pardonner? Bien sûr, si Abby est capable de faire ça, mais c'est sûr que moi je peux le faire, parce qu'Abby est pire que moi. Ainsi, je suis devenu convaincu que Dieu porte attention aux hommes à condition que ceux-ci le désirent suffisamment. Ma conception n'a pas besoin d'être parfaite. Si je désire d'avoir Dieu dans ma vie, c'est assez pour commencer. Enfin, je voyais, je sentais, je croyais. Mes yeux n'étaient plus obstrués par l'orgueil et les préjugés. Un monde nouveau m'apparaissait. J'ai soudain compris la vraie signification de mon expérience dans la cathédrale. Quand j'étais allé voir l'épitaphe, il disait qu'un soldat va mourir par le pichet. À l'espace d'un instant, j'avais eu besoin de Dieu et je l'avais désiré. J'avais timidement souhaité qu'il soit là. Et il est venu avec ce que son chum lui a dit, pourquoi tu ne prends pas la conception de Dieu? Mais il a voulu le faire. Il a dit, j'ai eu besoin de Dieu et je l'avais désiré. Il avait timidement souhaité qu'il soit là puis il est venu. Mais le sentiment de sa présence avait été rapidement étouffé par les clameurs du monde, surtout celles qui s'élevaient en moi. Il en avait été ainsi depuis ces temps-là. Parce que Bill, il pouvait pas croire que Dieu permettait les guerres, permettait les enfants de mourir, permettait le mauvais temps que les femmes avaient. Bill, ça se peut pas. Ça se peut pas qu'il y ait un Dieu qui laisse faire ça. Puis quand il a changé sa conception, et bien, il a fait comprendre que c'est pas Dieu qui fait tous ces malheurs-là. C'est la vie, puis c'est les humains. Mais Dieu va t'aider à te sortir de ça si tu en fais une conception différente. Comme j'avais été aveugle, à l'hôpital, on m'a éloigné de l'alcool pour la dernière fois. C'était le 11 décembre 1934. Le traitement semblait indiquer que je montais des signes de délirium tremens. Je commençais à voir apparaître des choses sur le mur qui n'existaient pas. Puis je me suis humblement offert à Dieu tel que je le concevais alors. La conception que son chum lui a dit, pourquoi tu changes ce que tu penses que Dieu est, il a commencé à changer sa conception. Il le dit, je l'avais timidement souhaité, il est devenu là. Tel que je le concevais alors, lui demandant de disposer de moi comme il l'entendait. Je me suis confié à lui sans réserve pour qu'il me guide et me protège. Il a donné sa vie à cet être suprême-là de sa conception, si petite soit-elle, cette conception-là est assez pour commencer. Puis Bill, il a eu ce privilège-là de pouvoir redonner sa vie à cet être suprême-là. Pour la première fois, j'ai admis que seul, je n'étais rien, que sans lui, j'étais perdu. Bill, il savait qu'il était perdu, puis il allait le renfermer, puis son chum était assis devant lui, qui était libre, puis qui était pire que lui. Sans me ménager, j'ai regardé mes fautes en face et consenti ce que mon tout nouvel ami les extirpe. Depuis lors, je n'ai pas plus un verre. Bill, il a passé sa vie en revue, passé ses défauts en vue, puis demandé à Dieu qu'ils enlèvent. Mon ancien camarade de classe est venu me voir et je lui ai fait part de tous mes problèmes et de tous mes défauts. Il est allé faire une 4 et 5 avec Bill, son ami Abby. Nous avons dressé la liste des personnes qui j'ai causé du tort et envers qui je nourrissais du ressentiment. Je me suis montré entièrement disposé à rencontrer cette personne et à admettre mes torts sans jamais les juger. J'ai redressé tous les torts causés du mieux que je le pouvais. Il a fait sa 8e étape, s'est préparé à faire sa 9e étape pour, quand il sera à l'hôpital, aller faire sa 9e étape, aller redresser les torts du mieux qu'elle a le pouvoir. Je devais mettre à l'épreuve ma nouvelle conscience et la présence de Dieu en moi. Le bon sens serait le contraire de ce que j'avais été jusqu'à présent. Il a réalisé que la conception de Dieu renforçait, puis que ça va être différent de tout ce qu'il a vécu avant. Dans le doute, je devais m'asseoir tranquille, aller méditer et demander seulement de lui donner la force et la lumière pour régler les problèmes de la façon dont il voulait, de connaître la volonté de Dieu et de pouvoir l'exécuter. Jamais je ne devais prier pour moi-même, sauf pour demander de devenir plus utile aux autres. Ainsi seulement, je pourrais espérer être exaucé. Mais dans ce cas, je devais l'être abondamment. Je ne pouvais pas prier pour moi-même. Je priais juste pour que Dieu m'enlève le goût d'aller boire, qu'il m'enlève le goût de commettre des erreurs que je commettais. Mon ami m'a promis que lorsque j'aurais fait ces démarches, je vivrais un nouveau genre de relation avec mon Créateur. Il nous dit dans l'étape 12, comme résultat de ces étapes, je vais connaître une vie spirituelle. Je vivrai un nouveau genre de relation migrateur que j'aurai en main les différents éléments d'un mode de vie qui apporterait la solution à tous mes problèmes. Comme résultat de ces étapes, on va connaître un réveil spirituel. Essentiellement, il suffisait de croire en la puissance de Dieu et de se montrer disposé, en toute humilité et en toute honnêteté, à établir et maintenir cet nouvel ordre des choses. Tout ce que j'ai à faire, c'est avoir une conception différente de Dieu, de ce que tu as toujours eu, puis redonner cette volonté-là, ces idées-là à Dieu de ma conception, de toujours y redonner ça. Établir et maintenir cette nouvelle ordre des choses. C'était simple, mais pas facile. Il fallait y mettre le prix. Cela signifiait l'anéantissement de mon égocentrisme. Je devais m'en remettre en toute chose au Père de lumière qui régnait sur nous tous. Bill y emploie différents noms pour signifier Dieu. Il l'appelle de différentes manières. Puis là, il dit, Bill, il fallait anéantir mon égoïsme parce que c'est avec ça qu'il a mené sa vie, puis ça n'a pas marché. Il fallait qu'il remette sa vie dans les mains de Dieu, puis suivre les directions. Ses propositions étaient radicales et révolutionnaires. C'est certain que c'était radical d'aller changer l'être suprême. Puis encore aujourd'hui, quand on prend des nouveaux, essayer de lui faire comprendre que la conception de Dieu est erronée, c'est radical, c'est révolutionnaire. C'est pas facile à faire. Mais à partir du moment où je les ai acceptés, l'effet a été électrisant. Aussitôt qu'il en est venu à croire à quelque chose de différent que son chum lui avait dit, ça a commencé à marcher. J'ai éprouvé une impression de victoire suivie d'une sensation de paix et de sérénité que j'avais jamais ressentie auparavant. Une sensation de bien-être qu'il n'avait jamais eue avant. J'étais pleinement confiant. Je me sentais transporté, comme si le grand vent frais des cimes avait soufflé à travers de moi. Bill, il dit, c'est comme Dieu est venu à voir comme ça sera le vent. Le vent, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le sentir. Même si on va plus haut que les arbres, le vent, il est là, on ne le voit pas, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le sentir. Mais il dit, ça a fait cette impression-là de moi. C'est comme si Dieu m'aurait traversé, aurait rentré dans moi. La plupart du temps, Dieu vient aux hommes graduellement. Mais dans mon cas, la rencontre a été soudaine et profonde. Bill, qui avait vu son chum Abby, était à moitié sous. Une couple de semaines après, il était dégrisé à l'hôpital. Puis Abby est allé le voir à son hôpital. Ils ont fait une nouvelle conception de Dieu. Et puis, il a fait ses étapes avec Bill. Dans ce temps-là, c'était les six choses des groupes d'Oxford, je ne sais plus du mot, là, que Bill a fait son hôpital avec Abby. Pendant un instant, je me suis senti inquiète. J'ai appelé mon médecin pour lui demander s'il croyait que j'étais encore sain d'esprit. Il écoutait étonné ce que je lui racontais. Il a appelé le docteur Silkworth. Le docteur Silkworth, il dit, peut-être tu vas devenir fou, tu vas venir d'une manière, tu vas être stable, puis tu ne sauras pas ce qui se passe. Là, Bill, il trouva que ça a venu pas mal fort. Il va appeler le docteur. Peut-être c'est de ça qu'il parlait. Finalement, complètement dépassé, le docteur m'a dit, t'es arrivé quelque chose que je comprends pas, mais tu fais mieux d'y rattacher, d'y raccrocher. N'importe quoi est mieux que l'état dans lequel tu étais. Aujourd'hui, ce bon docteur a souvent l'occasion de rencontrer des âmes qui vivent des expériences comme la mienne. Il sait qu'ils sont vrais. Parce que Bill, il a eu un réveil spirituel très fort. Il y en a d'autres qui ont eu ça. Moi, ça a été, ça a pris du temps. C'est pas été électrisant. Ça a pris des mois avant que j'en vienne à croire, avant que je puisse mettre cette conception-là dans ma vie. Dans mon lit d'hôpital, la pensée m'est venue qu'il y avait des milliers d'alcooliques désespérés qui seraient heureux de bénéficier de ce qu'ils m'avaient donné de façon aussi gratuite. Bill, avec ses idées de grandeur, déjà là, sur le lit d'hôpital, il a à peine retrouvé son bon sens que déjà, il dit, je pourrais le donner à d'autres pour que les autres peuvent se rétablir aussi. Je pourrais peut-être en aider quelques-uns qui pourraient ensuite intervenir auprès d'autres alcooliques. C'est juste ça qu'on fait aujourd'hui. Mon ami avait insisté, insisté, ça veut dire très fort, sur l'absolue nécessité de mettre les principes qu'il m'avait enseignés en pratique dans tous les domaines de ma vie. D'aller les 12 étapes, d'aller mettre ça dans tous les aspects de ma vie, pas juste qu'en un meeting. Il était particulièrement important que je m'occupe des autres de la même façon que mon ami l'a fait pour moi. La foi sans les œuvres est une foi morte, disait-il, et c'est particulièrement pour un alcoolique. Parce que Bill nous a dit qu'il avait toujours cru. Pourtant, Bill, il n'a jamais été capable d'arrêter de boire. Pourtant, il a toujours cru, mais c'est une foi morte. Quand son chum lui a dit, ben, il faut que tu changes la conception de toi pour que ça marche, il y a eu une ouverture d'esprit assez grande pour que ça commence. Si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres et par le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qu'il guette. Je m'en vais répéter cette phrase-là parce que c'est un point tournant dans notre vie, ça. Dans la vie de tout alcoolique ou de n'importe qui peut avoir n'importe quelle obsession. Si un alcoolique néglige d'enrichir et de perfectionner sa vie spirituelle par son action auprès des autres, pas juste à faire les étapes, je vais aller aider les autres à faire ces 2 étapes. Et pour le don de soi, il ne pourra pas survivre aux épreuves et aux dépressions qu'il guette. Bill, il dit, la vie va continuer, même si t'es dans l'alcoolique anonyme, même si tu ne bois pas, la vie va continuer. La vie va continuer t'apporter des choses. Il va y avoir encore des guerres, il va y avoir des enfants qui vont mourir jeunes. Il va y avoir toutes sortes de souffrances qui vont se produire encore. Mais si tu n'es pas capable de continuer à aider les autres dans ce modèle-là, ben, tu ne pourras pas résister à ça. Tu vas vouloir être enlevé à la vie ou tu vas vouloir en mourir. Les dépressions qui nous guettent, les épreuves et dépressions. Si c'était pas ainsi occupé, l'alcoolique boirait sûrement et de nouveau, s'il buvait, il mourrait sûrement. Alors la foi serait morte en effet. C'est ainsi que nous voyons les choses. Ma femme et moi avons adhéré avec enthousiasme à l'idée d'aider d'autres alcooliques à trouver une solution à leurs problèmes. Cette orientation était opportune car mes anciens partenaires commerciaux ont douté de mon rétablissement. Pendant un an et demi, j'ai trouvé peu de travail pendant cette période. Ça a pris un an et demi avant que ces chums de travail disent, OK, Bill, rentre de moi. Parce que Bill, elle a cogné à la porte, disait, non, Bill, on veut pas te voir là. Mais il dit, je bois plus, je vous le dis, je bois plus. Non, non, tu nous as dit ça, mais des fois, Bill, on veut pas te voir. Non, il vient pas, Bill. Puis Bill, il a tout le temps perdu. Puis un an et demi après, ils ont dit, ben, OK, Bill, viens là, puis tu fais certain que tu restes comme il faut, parce que si on te demandera une autre fois, tu reviens plus. Okay? C'est ça que sont ses amis. Ça prend un an et demi. Tu sais, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on rencontre des nouveaux d'en haut, des filles puis des gars, ils ont perdu leur famille. Puis ça fait un mois et demi, puis ils pensent qu'ils vont tous retrouver leur famille. Mais ça prend du temps à retrouver notre famille ou à prouver qu'on est réellement correct et qu'on va rester correct. Parce qu'on a dit bien des fois qu'on voulait arrêter, qu'on pourrait arrêter, mais on l'a quand même fait permanemment. Je me sentais pas très bien à ce moment-là et j'étais tourmenté par des actes d'apitoiement et de ressentiment. Pauvre petit Bill, hein, gars, pauvre qu'est-ce qui arrive encore. Pauvre petit Bill. Ces sentiments ont parfois failli me ramener à l'alcool. Le ressentiment, puis l'apitoiement, pauvre petit Hubert, gars, qu'est-ce qui arrive encore. J'ai vite compris que là où toutes les autres méthodes avaient échoué, l'action auprès d'un autre alcoolique sauvait la situation. Si ça va mal dans ma vie, s'il y a de quoi qui marche pas, je vais aller aider un alcoolique, je vais aller aider le voisin, je vais aller aider quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est plein de monde qui a besoin d'aide partout. Fait que ma job à moi, c'est d'aller aider les autres, puis Dieu va avoir soin de mon rétablissement. Il m'est souvent arrivé de retourner désespéré à l'hôpital où j'avais été soigné. Et là, de parler à un malade qui me remontait, De façon, là, de parler à un malade me remontait de façon étonnante et je repartais ragaillardi. Il allait à l'hôpital, ce que le docteur Silcois travaillait, allait parler aux alcooliques dans le département de la psychiatrie. Puis là, il parlait de son mode de vie. Puis je partais de là, je filais mieux. Peut-être que les autres ne se convertissaient pas, mais lui, il filait mieux à cause de ça. Je repartais ragaillardi. Ce mode de vie donne des résultats dans des moments difficiles. Quand ça marche pas, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort, pas dire pauvre petit Hubert. Non, je vais aller voir qui je peux aider aujourd'hui, à qui je peux rendre service. Rapidement, nous avons commencé à nous faire des amis et un lien fraternel, excusez, un lien fraternel auquel fait bon appartenir, c'est ici Antonio. On a fait des meetings, on va se rencontrer des meetings, on a hâte de voir les gens dans le meeting, on va fraterniser, puis on devra donner un message d'espoir dans les meetings. La joie de vivre nous habite vraiment, même dans des situations de tension ou de difficulté. Même quand ça va mal, je le sais que ça va finir par aller bien. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je le sais que ça va finir par être correct. Puis juste ça me rend joyeux, heureux et libre. J'ai vu des centaines de familles s'engager sur des voies prometteuses. J'ai vu les pires situations familiales redressées, des querelles et des rancunes de toutes sortes effacées. J'ai vu des hommes sortir de l'asile, reprendre une place capitale dans la vie de leur famille et de leur communauté. J'ai vu des membres de professions libérales et des hommes d'affaires retrouver leur rang social. Il n'y a quasiment aucune forme de problème ou de misère qui n'a pas été surmontée par nos membres. Puis ce que Bill dit là, j'ai tout vécu ça. Moi, j'ai vu ça, toutes sortes de monde de reprendre la voie du bonheur. Puis des avocats, des notaires, des docteurs, de tous les rangs sociaux. Ils ont perdu le membership, ils ont venu à haut, ils ont fait les étapes, ils ont commencé les autres, puis ils ont pu retrouver le métier d'autrefois. Une des villes à l'ouest du pays, incluant son agglomération, compte des milliers d'alcooliques avec leur famille. Nous nous retrouvons souvent pour que les nouveaux puissent puiser l'amitié qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'on fait des meetings, pour attirer le nouveau, avoir le nouveau, l'entourer le nouveau, puis l'amener à faire ses étapes. Ces rencontres informelles réunissent souvent 50 à 200 personnes. Nous grandissons en nombre et en force. C'est ce que les meetings faisaient au début. Tout le monde encerclait le nouveau, on l'emmenait à aller faire ses étapes. Un alcoolique en pleine cuite est un être déplaisant. L'entreprise de persuasion que nous devons engager auprès des alcooliques est parfois éreintante, parfois drôle, puis parfois tragique. Un d'entre eux s'est suicidé chez moi. Il pouvait pas ou voulait pas comprendre notre mode de vie. Ce gars-là, il s'appelait Bill C. C'était un avocat qui venait de Montréal. Nous nous amusons aussi énormément. On a des parties d'en haut. On a toutes les sortes d'amusements. On peut faire n'importe quoi d'en haut, mais il faut faire nos étapes et aider les autres à les faire. C'est de ça qu'on ne peut pas se distancer. Nous nous amusons énormément. Peut-être que certaines personnes seront offusquées parce qu'il semble être de la frivolité ou un manque de sérieux. Sous ces apparences, nous sommes pourtant d'une gravité implacable. On va avoir du fun, on va s'amuser, mais quand j'ai un nouveau, ça devient sérieux, puis on va aller l'aider, on va l'aider à faire ses étapes, on va l'aider à passer à travers ce que c'est qu'il manque. La foi doit accomplir son œuvre 24 heures sur 24 en nous et par nous, ou nous périrons. Puis moi, je le dis à tout le monde, ma vie, c'est un livre ouvert, puis mon téléphone est ouvert 7 jours par semaine, 24 heures par jour, à n'importe qui a besoin d'aide. La plupart d'entre nous croient qu'ils n'ont plus à chercher l'utopie. L'utopie, c'est un mode de vie exagéré, un mode de vie qui est tellement grand qu'on peut pas, on peut pas obtenir l'utopie, mais on s'en va vers ça. C'est ce que nous avons ici maintenant. Tous les jours, les propos que mon ami a tenus dans notre cuisine sont répétés et transmis pour former un cercle de plus en plus grand, porteur d'un message de paix et de bonne volonté. Moi, j'ai vécu ça, je vis encore ça. J'ai un paquet de filleuls qui ont des filleuls qui se prennent en main. Toutes ces joies-là, ça m'est tout communiqué à travers d'eux autres, d'une génération à l'autre. J'ai des filleuls peut-être qui ont 5, 6, 7 générations en arrière. Ils parlent de moi, puis je parle d'eux autres, puis ça finit jamais, puis il faut pas que ça finisse. Il faut qu'on entretienne ça pour le restant de notre vie. Tant qu'on est en vie, entretenir ça, entretenir avec les nouveaux, lui dire, si moi je peux pas y faire des tâches, je vais y conduire quelqu'un ou quelque part qui peuvent les faire. C'est important qu'on lui transmette le message exactement comme il nous a été donné. Moi, quand je buvais, j'aimais pas ça qu'on mette de l'eau dans mon vin. Quand je me gelais, j'aimais pas ça qu'on coupe mes lignes de coke. Aujourd'hui, j'ai un programme, je veux pas qu'on coupe qu'est-ce qui est offert là. Je veux l'offrir à tout le monde, je veux l'offrir le plus précis possible, puis je veux qu'on continue à l'offrir comme ça. Je m'appelle Hubert, je suis un alcoolique. Puis si vous le voulez bien, on va fermer le meeting avec une prière de sérénité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, Et la sagesse va commettre la différence. Merci à tout le monde d'être là. Encore une fois, j'ai essayé longtemps par moi-même, ça ne marche pas, avec vous autres, ça fonctionne. Merci beaucoup.